Celui pour qui Allah veut le bien et lui facilite l'apprentissage de la religion. Certes, la science de la religion est par transmission orale. Donc la science de la religion s'apprend par transmission orale auprès de gens, des gens de la connaissance, avec chaîne de transmission. Et ce n'est pas simplement en écoutant à droite et à gauche des gens qu'on ne connaît pas, même si ils ont telle ou telle réputation. Comme il a dit le quatrième calife, il a dit ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. C'est-à-dire, ce n'est pas par les hommes qu'on reconnaît la vérité, mais par la vérité qu'on reconnaît les hommes. C'est-à-dire, il faut, pour que ce soit la vérité, il faut que ce soit conforme aux règles de la religion et à la preuve, aux preuves de la raison. Et ce n'est pas simplement que ça soit dit, que ce soit dit par telle ou telle personne. Donc, nous avons vu des règles importantes sur la croyance, donc l'islam, la religion de vérité, la religion des prophètes, de Adam jusqu'à Muhammad. Tous, ils ont enseigné l'unicité de Dieu, comme il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. C'est-à-dire, le meilleur de ce que j'ai dit, moi ainsi que les prophètes qui m'ont précédé, c'est il n'est de Dieu que Allah, il n'a pas d'associé. Et ça englobe le sens que Dieu il est le seul créateur, le seul qui fait passer les choses du néant à l'existence. Donc on a parlé de cela. Créer dans ce sens-là, faire passer du néant à l'existence, c'est que pour Dieu. Dieu le créateur de nos idées, de nos actes, de notre volonté, de chaque instant, de notre perception. Il est le créateur des corps palpables, impalpables, de leurs caractéristiques, de notre volonté. Il est le créateur du bien et du mal. Donc on a dit Dieu fait ce qu'il veut, il n'a pas de compte à rendre, il guide qui il veut et il égare qui il veut. Donc la guider est un bienfait de Dieu. Et Dieu n'est pas obligé d'accorder quoi que ce soit. Donc on a montré ce point très important de l'enseignement sunnite. Parce que la voie sunnite c'est la voie du prophète, alayhi salatu wassalam, et de ses compagnons. Contrairement aux sectes, comme le prophète nous a dit, qu'il y a des gens qui s'égarent après lui, comme des gens se sont égarés après Moïse, il a dit, après Jésus. Donc Moïse, Jésus, tous les prophètes, ils sont musulmans, mais ils sont pas tous arabes. Et donc il y a des gens qui sont égarés après les prophètes, et après Muhammad, alayhi salam, aussi il y a des gens qui sont égarés. Et la voie de vérité, ce qu'on appelle la voie sunnite, sunna, ça veut dire voie. C'est-à-dire l'enseignement du prophète alayhi salat wa salam. Et d'ailleurs, dans le hadith, il a dit Al-mutamassiku bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru shahid. C'est-à-dire celui qui s'attache à ma religion. Sunna ici, ça veut dire religion. C'est parce que le mot sunna c'est utilisé aussi pour les actes surrogatoires. Nafila, qui sont en plus, qui ne sont pas obligatoires. C'est utilisé pour cela, mais dans la jurisprudence. Mais dans les hadiths, sunna, c'est utilisé pour la voix du prophète, sa religion qui comprend la croyance et les pratiques. Donc c'est ça, sunnite, ça vise cela, la religion du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc celui qui s'y attache, donc il a dit le prophète, et il a le paradis, inshallah. Et surtout, quand il y a la corruption, et la corruption, il est apparu, comme le prophète nous l'a montré, et c'est parmi les signes de la fin du monde. Il a une grande récompense, la récompense d'un martyr, donc celui qui s'attache à cette voie-là. Donc la voie sunnite, c'est Dieu, contrairement aux gens égarés, c'est que Dieu, le créateur de absolument tout, il fait ce qu'il veut, tout lui appartient. Il n'a pas de compte à rendre. Il guide et égare qui il veut. Il est le créateur, bien sûr, de tout. Donc ça englobe que ce soit le bien ou le mal, car Dieu n'a pas d'associé. Et Dieu guide et égare qui il veut. La différence, c'est que Dieu récompense le bien, ne récompense pas le mal. Il ordonne le bien, il interdit le mal. Mais c'est lui qui a voulu tout ce qui arrive, parce que c'est impossible rationnellement qu'une chose arrive malgré Dieu. Si une chose arrivait en dehors de sa volonté, il serait vaincu. Et ceci est contraire à la divinité. Et c'est pour cela qu'il dit dans le Coran, Wallahu ghalibun ala amrih. C'est-à-dire, rien n'empêche la réalisation de la volonté de Dieu. Absolument rien. Donc c'est Dieu qui crée notre volonté. Donc ça, c'est vraiment à retenir par cœur. Allah Ta'ala dit, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et vous ne voulez que ce que Allah veut, le Seigneur des mondes. Donc tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu, notre volonté et nos actes. Et donc c'est vrai, c'est Dieu qui a créé des croyants, il a créé des gens, les humains, il a guidé certains, il a créé en eux les actes de bien. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. C'est-à-dire, c'est Dieu qui crée en nous les actes de bien et il crée en certains les actes de mal. Il crée en certains les actes de bien, il crée en certains les actes de mal. Et c'est lui qui récompense pour les actes de bien et c'est lui qui châtie pour les actes de mal. C'est-à-dire, Dieu fait ce qu'il veut. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dieu n'est pas interrogé sur ce qu'il fait et eux, ils seront interrogés. Donc il y a plusieurs preuves ici, vous pouvez donc réviser. Donc ce sujet, on y reviendra en détail, mais c'est important toujours de rappeler, parce que c'est les fondements. Donc c'est expliqué en détail ici, dans la prédestination du bien et du mal, avec les versets qu'on vient de citer, et d'autres preuves très importantes, que Dieu guide et égare qui veut, et c'est un grand bienfait la guider. Et on a rappelé donc l'autre fois l'importance de s'attacher à cette voie-là, donc de la prendre avec chaîne de transmission et de défendre cette voie-là, bien sûr, de défendre cette voie-là en propageant, donc en propageant, en invitant d'autres, en incitant d'autres à apprendre, comme Allah Ta'ala dit. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. C'est-à-dire, vous êtes la meilleure des communautés, vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Donc, c'est la dernière des communautés. Donc, avant, il y avait d'autres communautés, donc, parce que l'islam, ceux qui suivent les prophètes, donc, c'est des musulmans. Donc, la dernière et la meilleure des communautés, c'est la communauté du prophète, alayhi salam, parce que elle était donc élevée par son prophète, car c'est le meilleur prophète, alayhi salam. Les prophètes sont les meilleurs des créatures. Donc les prophètes, ils sont intelligents, honnêtes, véridiques, chastes, éloquents, ils ont tous un beau visage, une belle voix, ils n'ont pas de maladies repoussantes. Donc, j'espère que c'est clair, le son. Donc on a dit les prophètes sont les meilleurs des créatures et cette communauté a été élevée par son prophète qui est le meilleur des prophètes, alayhi salam. Et tous, ils ont enseigné cette croyance-là que Dieu, il est unique, qu'il n'a pas d'associé, qu'il n'a pas de début, qu'il n'a pas de fin. Donc il y a des attributs de Dieu, on y reviendra aussi, donc à apprendre. Donc vous pouvez aussi regarder ici sur les attributs de Dieu. Les attributs de Dieu. Donc Dieu n'a pas de début, n'a pas de fin, il ne change pas, il entend, il voit, sans organe, il parle, sans langue ni lèvres. Il n'a pas de semblable, n'a pas d'égal. Il n'a besoin de rien, il sait toute chose avant qu'elle n'arrive. Dieu ne change pas. Tout est prédestiné par Dieu, ce qui va nous arriver, quel doigt on va faire, qu'est-ce qu'on va apprendre dans notre vie. Chaque instant est déjà est prédestiné. Dieu ne dépend pas du temps, il existe avant l'espace, le temps. Et on dit qu'il est sans endroit et sans comment, il ne dépend pas du temps. Donc contredire ces fondements, bah, c'est quelque chose qui, contraire à l'islam, annule l'islam de la personne. Donc ces sujets, on y reviendra donc en détail à chaque fois. Et bien sûr, là on est dans, comme on l'a dit, dans le mois de la naissance du prophète, alayhi salatu wa salam. Et c'est connu dans les pays musulmans, manifester de la joie, de la bonne humeur, pour l'advenue au monde du prophète, alayhi salatu wa salam. Allah Ta'ala dit, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. C'est-à-dire Dieu, Allah Ta'ala dit ce qui signifie, nous t'avons envoyé que miséricorde pour les mondes. Ici, nous, pour la glorification. Donc, il y a dans plusieurs versets, il y a nahnu employé au sujet de Dieu. C'est pas pour le pluriel, mais pour. C'est pas pour la multiplicité, mais pour. C'est le pluriel de glorification, en fait. Dieu se glorifie lui-même. Donc, ça répond à des questions que pourront se poser, que peuvent se poser certains gens, où il y a les versets où il est cité nahnu, nous. Littéralement. Au sujet de Dieu, c'est pour se glorifier, pour la glorification en fait. De toute façon, c'est dans la langue, c'est utilisé pour la glorification, que ce soit nous ou vous. Et bien sûr, le Coran est conforme aux règles de la langue arabe, bilisan arabiyyin mubin, avec une langue arabe claire. Donc, à cette occasion, c'est l'occasion de parler justement de la voie sunnite, de la voie du juste milieu et de la voie, que ce soit donc de ceux qui vont à l'extrême, qui sont dans l'extrémisme et ceux qui contredisent l'enseignement du prophète, qui contredisent la voie sunnite. Donc, il y a malheureusement des sectes qui contredisent. Et ils sont une minorité, mais ils ont des moyens financiers pour propager leur voix fausse. Justement, c'est l'occasion du Maulid de commémorer la naissance du prophète alayhi salatu wa salam. Donc bien sûr, c'est un juste milieu. C'est pas l'extrémisme de ceux qui renient ou interdisent. Donc ces pratiques connues dans le monde musulman, et c'est pas l'exagération aussi des autres sectes malheureusement qui vont qualifier le prophète par des attributs de Dieu, et c'est un blasphème aussi. Il y a certains sectes aussi qui vont à l'extrême, comme il a dit le prophète que il nous a interdit de faire comme ils ont fait les mécréants par rapport à Jésus, qu'ils l'ont adoré. Et le Coran aussi nous interdit cela. Mais on glorifie le prophète comme il se doit, parce qu'il est digne de lui, pas plus. On ne va pas lui attribuer des attributs de Dieu, comme certaines sectes qui existent, hein, qui vont dire que le prophète, il sait tout ce que Dieu sait, et ça c'est un blasphème. Et donc, on ne va pas adorer le prophète, comme Dieu nous dit nous apprend dans le Coran, au sujet, il nous met en garde contre ceux qui ont adoré Jésus, et ils ont dit que Jésus c'est un dieu, et donc ça c'est interdit. Ou attribuer au prophète les attributs de Dieu, ça c'est interdit. Mais glorifier et respecter les prophètes comme il se doit, c'est quelque chose de bien qui fait gagner des récompenses. Faire l'éloge du prophète, alayhi salatu wa salam. Glorifier tous les prophètes comme c'est des frères. Donc dans la religion, comme il a dit le prophète, alayhi salatu wa salam. Donc les musulmans glorifient le prophète, alayhi salam. Donc le prophète, il a montré cette importance de remercier Dieu pour les bienfaits qu'il accorde, l'envoi du prophète, il est devenu prophète dans le monde, c'est un bienfait de Dieu. Donc il y a plusieurs preuves, comme le prophète nous a montré de glorifier sa naissance, en disant, pour le jeûne du lundi, en ce jour, je suis né. Donc, et on peut glorifier par le jeûne, par l'adoration, par le fait de donner à manger, de réciter le Coran, faire l'éloge du prophète. Il y a plusieurs sortes d'adoration, d'actes de bien. Donc, il y a plusieurs points à montrer dans ce sujet. Le fait qu'il existe dans l'islam, des bonnes innovations, et le fait que donc faire commémorer la naissance du prophète, donc dans ce mois-là, ne veut pas dire que cela ne veut pas dire que nous on fait la glorification du prophète que dans une période ou que on respecte pas ce qu'ont fait les compagnons ou des choses comme ça, comme pourraient le dire certains donc groupes égarés. Donc c'est pour cela il faut vraiment être objectif et bien comprendre ces détails-là point par point. Donc il y a la bonne animation dans l'islam, comme les musulmans ils ont innové, donc le fait de construire des minarets, de faire des points dans le Coran, deuxième appel à la prière, donc le jour du vendredi, le mihrab où se tient l'imam. Donc il y a plusieurs donc preuves que les musulmans ils ont donc ils sont en accord avec les savants donc en priorité de l'islam ils sont en accord avec ce qui compte les bonnes innovations qui ne contredisent pas l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il y a beaucoup de preuves comme vous pouvez voir les grands savants ils ont parlé etc. Il y a vraiment beaucoup de preuves. Le but avant tout c'est donc déjà en parlant de sujet de mettre en garde contre les sectes extrémistes à savoir le wahhabisme que les médias ou les gens qui connaissent pas ou eux-mêmes se font appeler salafites. Le wahhabisme donc en résumé donc parce que c'est une des seules en fait c'est quasiment les seules ironies ces pratiques sunnites. Et d'autres pratiques comme on va voir. Il est important d'en parler parce que il y a des jeunes qui connaissent pas, ils ont pas la culture musulmane, ils peuvent tomber dedans, ou des moins jeunes, à travers l'internet, ils ont pas une éducation musulmane, il faut savoir. Donc, malheureusement, depuis la colonisation, dans la plupart des pays musulmans ont été colonisés, les colonisateurs, ils ont arrêté l'enseignement. Donc, ils ont arrêté l'enseignement à grande échelle. C'était enseigné à grande échelle. Ces choses-là que je viens de dire, qu'on a dit, c'était enseigné dès 7 ans, comme on a dit l'autre fois. Donc ils ont arrêté l'enseignement et beaucoup ils ont grandi sur l'ignorance. Et malheureusement, certains ils tombent dans l'extrémisme. Et c'est pour ça, les ennemis d'Islam utilisent ces sectes-là. Donc c'est connu ça. Ils utilisent ces sectes-là pour égarer, d'une, pour égarer des jeunes musulmans ou des moins jeunes. Ou pour casser des pays musulmans, prendre les richesses des pays musulmans. Et de deux, ils l'utilisent aussi pour un prétexte pour accuser les musulmans, comme on le voit dans l'actualité. Donc, ils l'utilisent ces sectes-là. Moi, c'est eux qui les aident. Il suffit de voir. Donc, c'est connu. Ces gens-là qui font l'extrémisme sont armés par des gens qui sont ennemis d'Islam. Et d'ailleurs, le wahhabisme s'est né avec l'aide des Anglais. Et la deuxième secte aussi, on aura très connu, enfin, qui a des moyens aussi, qui travaille avec les wahhabites et aussi, donc les wahhabites sont nés avec l'aide des Anglais dans la région péninsule arabique. Et l'autre secte s'est née en Égypte, donc et on voit d'ailleurs ces gens-là, cette secte-là, sa deuxième secte spécifiquement, c'est eux qui disent aux gens qu'on peut se moquer du prophète, que c'est y a pas de mal, alors que c'est un blasphème. Donc on rappelle aussi dans l'islam que le prophète nous dit dans le hadith très connu, si on ne peut pas arrêter le mal, donc avec la main ou avec la langue, il faut détester avec le cœur. On ne peut pas approuver. Donc celui qui approuve, donc il n'est pas musulman, approuver la mécréance et la mécréance. Donc malheureusement, on voit ces gens-là de cette deuxième secte surtout qui disent. Donc, c'est connu, ils l'ont dit en public, qu'on peut se moquer du prophète, des choses comme ça. Et ça, c'est un blasphème, bien évidemment. Dans l'islam, il y a une sagesse, bien sûr. On agit avec sagesse, de nos jours, surtout avec la parole. Et si on peut pas faire, donc, on déteste avec le cœur, tout simplement. Donc, c'est ça, les règles de l'islam, comment se comporter face à ce genre de choses. Donc malheureusement les ennemis d'Islam, comme avant les hypocrites, ils faisaient ça à l'époque du prophète, et ça s'est pas arrêté de nos jours, ils utilisent des gens que, sous couvert d'Islam, ils vont essayer d'égarer les gens, notamment en reniant les pratiques musulmanes sunnites comme le Maulid. Donc voilà, vous pouvez lire beaucoup de preuves ici. Donc les preuves incontestables qu'il ait permis de commémorer la naissance de la meilleure des créatures, le prophète Mohammed, le Maulid. Donc il y a beaucoup beaucoup de preuves. Paroles des savants sunnites, que ce soit donc Suyuti, Ibn Hajar et d'autres, et témoignages des gens qui ont avant l'arrivée des Wahhabites, comment Ibn Battuta notamment, c'est un voyageur très connu. Il témoigne comment le juge de la Mecque, il fête le Maoulid. Donc, parler du prophète. Donc, pourquoi ils font cela, les savants? C'est pas pour rien. Parce que, parce que plus on parle de quelqu'un, généralement, c'est connu. De manière habituelle, on voit des jeunes maintenant, même dans les pays arabes, ils sont fans de chanteurs ou de politiciens ou de joueurs de foot, alors que c'est des gens inconnus, parce que dans les médias, on parle souvent de ces gens-là. Les gens, ils sont attachés à eux, ils sont prêts à payer beaucoup, faire la queue des heures pour donc. Et ces gens-là, ils ont jamais dit oui, mauvaise innovation, ces gens qui critiquent le Maulid, ces gens. Alors qu'on parle de la meilleure des créatures, les anges, ils étaient contents de sa naissance, et Iblis était malheureux, il était triste, et ben ils font comme Iblis en réalité. Donc les savants, ils ont instauré cela parce que les gens, ils s'éloignent de la religion. C'est pas comme les compagnons. Les compagnons, la religion, c'est leur vie. Le prophète, c'est tous les jours. Les gens maintenant, il y a la vie qui les préoccupe. Il y a des gens, ils prient pas. Ils ont jamais prié de leur vie. Donc il y a des gens, ils sont très loin. On trouve même malheureusement des Arabes athées dans les pays musulmans. Du fait qu'ils sont loin de la religion, dès qu'on ils se font égarer, on essaie de les faire, les non-musulmans essaient de les égarer, ils tombent dans le piège facilement, parce qu'ils sont loin. Donc le fait de parler du prophète, ça augmente l'attachement au prophète. C'est pour cela qu'ils font cela. Et on remercie Dieu pour, comme le prophète, il a dit de jeûner à Ashura. Alors que, pourquoi? Pourtant, il a trouvé des gens non musulmans, ils jeûnaient à Ashura, à Médine. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on est prioritaire sur vous, sur Moïse, parce que nous, Moïse, il est musulman. C'est ce que il leur a fait comprendre. Le prophète, il a dit aux compagnons, jeûnez. Il n'a pas dit, ah non, non, il n'a pas dit, les non musulmans, ils jeûnent, donc vous jeûnez pas. Il a dit, nahnu aoula bi Moussa minkum. On est plus prioritaire sur Moïse que vous. Donc, il a jeûné parce que pour remercier Dieu le fait qu'il a sauvé Moïse contre Pharaon, en ce jour de Ashura. Et ce remerciement se renouvelle le semblable de ce jour-là de chaque année. Donc les savants, ils n'ont pas dit non, non, il faut pas répéter au même jour, comme disent les extrémistes.
Ils disent non, non, tu fais pas spécifiquement. Ben, le prophète, il remercie Dieu, il a montré que de remercier Dieu à Ashura, même. Donc tout toute la, tous les donc chaque année le même jour, à savoir Ashura. Donc les musulmans chaque année la même période, hein, c'est pas une condition le 12, il y en a ils font un peu avant, mais durant le mois. Donc parce que il y en a ils trouvent un prétexte de dire bah non, il y a une divergence qu'il est né le 12, même s'il y a une divergence, mais la vie le plus connue c'est qu'il est né le 12 du mois de Rabiul Awwal. Donc, quelqu'un qui fête dans le mois, il n'y a pas de problème. Donc, fêter ici, on parle pas de mettre un concert de musique interdite, mais on parle de faire l'éloge du prophète, faire ce qui est utilisé chez les musulmans. Donc, les amdah, les anachides, correct, bien sûr, sans exagération. Sans l'exagération des sectes qui disent. Comme on a dit, ceux qui disent que ils vont dire le prophète c'est la première des créatures, et ça c'est complètement faux aussi. Hein. Donc vraiment un sujet détaillé sur ça. Le prophète c'est la meilleure des créatures, mais c'est pas la première dans le temps. La première des créatures c'est l'eau, mais c'est la meilleure des créatures. Première des créatures que Dieu a créée, c'est l'eau. Et ce n'est pas aussi ce qui disent certaines sectes, donc on appelle des faux soufis, ils vont dire le prophète c'est Dieu, et ça c'est un blasphème, comme ceux qui disent que Jésus, comme ceux qui disent Jésus est Dieu. Donc il y en a des gens qui s'habillent comme des musulmans, malheureusement. Donc on parle, c'est faire l'éloge comme il se doit, selon ce qui est digne de lui. C'est la mère des créatures, c'est le meilleur prophète. Il avait la belle apparence. Donc, il avait les bonnes manières, les meilleurs comportements, etc. Donc, c'est ça. Et réciter le Coran. Donc, et bien sûr, bien évoquer le nom de Dieu quand on fait Allahumma salli ala Muhammad. Par exemple, on dit pas salli en prolongeant le ya, ça fait donc comme une conjugaison au féminin. Et là, c'est interdit. Donc on dit Allahumma salli, doublement du lam, c'est tout. Tajdid. Allahumma salli ala Muhammad. Et on n'avale pas les lettres comme certains, certains, ils disent ça, ou ils mettent SW, ça. On ne fait pas les abréviations en parlant de Dieu, ou Alhamdulillah, ou Sallallahu ala Muhammad. On ne fait pas SW ou des choses comme ça. Ou on sait l'écrire, ou c'est pas obligatoire. Alors, faire salat ala nabi, c'est obligatoire que dans la prière. C'est recommandé en dehors de la prière, mais il faut bien le dire. C'est pas tu avales les lettres, c'est pas tu mets des initiales, ou tu dis Sallallahu alayhi wa sallam, ou tu dis rien. Donc comme ça t'as pas des donc tu fais pas des mauvaises choses, ou tu fais les choses bien ou tu fais pas, parce que salat ala nabi c'est obligatoire que dans la prière, dans le tashahhud, le dernier tashahhud, Allahumma salli ala Muhammad. Donc voilà, donc de manière générale sur le Maoulid. Donc il y a beaucoup de preuves bien sûr sur cela. Il y a de nombreuses très très nombreuses preuves. Donc je donnerai le lien aussi, islamsunnite.net. Donc beaucoup de frères de confiance, ils ont participé avec plein de scans, des livres, des savants sur ce sujet et tous les sujets, enfin beaucoup, la plupart des sujets sunnites, et les égarements des gens et la mise en garde des gens égarés. Donc islamsunnite.net. Donc il y a beaucoup de preuves pour celui qui veut détailler. Donc ici aussi, il y a beaucoup de réponses à des interrogations. Mais ici, le but, c'est de bien mettre en garde contre, surtout dans le contexte actuel, contre le wahhabisme qui est utilisé, comme on a dit, à double jeu par les ennemis de l'islam. Parce que c'est né avec l'aide des Anglais et des Occidentaux. D'autres, il n'y a pas que les Anglais, mais les Anglais, parce qu'à l'époque, c'était il y a 250 ans, en fait, c'était eux les leaders. Dans la colonisation, mais les gens avec eux connus bien sûr. Maintenant, ben c'est les mêmes avec d'autres nominations qui utilisent le wahhabisme. Et d'un côté, ils le pointent du doigt. Donc c'est pour ça, il faut connaître pour ne pas se faire piéger en fait par ces gens-là qui ont beaucoup d'alliés malheureusement. Mais ça reste une minorité. Donc le wahhabisme, ils contredisent d'abord avant tout sur la croyance. Donc le wahhabisme, il est né il y a 250 ans. Donc ils contredisent sur les fondements avant tout. Ils disent comme les non-musulmans déclarés, en fait, ils disent que Dieu habite le ciel, qu'il a une forme, qu'il s'assoit sur un trône, etc. Comme disent les autres religions, en fait, ils disent notre Père au ciel, qui se repose sur un trône. Mais on leur dit une simple question à tous ces gens-là, qui a créé le trône? Qui a créé le ciel? Qui a créé l'espace-temps? Et c'est là, ils se bloquent, ils arrêtent la discussion, tous, ce genre de personnes. Que ce soit cette secte ou les gens, les autres, qui sont non musulmans déclarés. Il suffit de leur dire qui a créé le ciel, le trône. Dieu existe avant le trône. Le trône, il est créé. Celui qui est au-dessus d'un trône, il a une forme, une quantité, une localisation. Et celui qui a une forme, une quantité, a besoin de qui lui a donné cette forme et cette quantité. Et celui qui a besoin, il peut pas être Dieu. Le besoin contredit la divinité. Donc le besoin contredit la divinité. Donc la croyance musulmane, Dieu a créé l'espace-temps, il existe avant l'espace-temps. Donc ils interprètent mal des versets et des hadiths, c'est là le danger en fait, parce que comme on a dit, il y a le sens, il y a des versets explicites et des versets non explicites. On va donner un exemple, L'imam al-Bukhari, il explique kullu shay'in halikun illa wajha. Il dit ici, toute chose sera anéantie sauf wajhullah. Il dit mulkullah, al-Bukhari dans son sahih. Parce qu'il comprend l'arabe, il a la bonne croyance. Ici, il ne veut pas dire visage. Il ne veut pas dire visage, mais il veut dire souveraineté, comme il a dit mulkullah. Wajhullah, il a dit souveraineté de Dieu. Il n'a pas interprété visage. Donc, un autre exemple très très clair, dans un hadith sahih, le prophète il dit que Allah Ta'ala dit Maridtu yabna Adam, falam ta'udni. Maridtu en arabe, mot à mot, je suis tombé malade. On va pas dire oui, on n'interprète pas et Dieu est tombé malade. Juste dans la suite du hadith, Dieu explique, ça veut dire quoi Maridtu? Maridha abdi. C'est-à-dire, mon esclave est tombé malade. Mon esclave est tombé malade. Donc c'est un sens figuré par omission, comme on dit, en français on dit le roi il a construit la ville. C'est-à-dire c'est pas lui qui a fait le maçon, mais les sujets du roi. Donc ça c'est utilisé donc dans plusieurs hadiths et versets aussi, sens figuré par omission. Comme Yanzilu Rabbuna, et c'est expliqué les anges de Dieu descendent. Ça veut pas dire Dieu descend dans le dernier tiers de la nuit. Parce que le déplacement, ça implique la quantité, l'espace, le temps, comme ils ont dit les grands savants de l'islam. Ça montre le danger de ces gens-là qui trompent les gens en interprétant mal les versets du Coran, parce que, comme Dieu nous dit dans le Coran, ceux dont le cœur comporte un égarement suivent ce qui n'est pas explicite, le sens du verset. Parce qu'ils ont une mauvaise croyance, ils veulent appuyer leur mauvaise croyance avec en citant des versets non explicites, il les interprète d'une manière non correcte. Le hadith dont je parlais, sans figurer dans le Coran, le hadith. Vous pouvez voir les détails qu'il a rapportés, les détails de l'explication qui montrent clairement qu'on peut pas, il y a des versets, il y a des hadiths, on peut pas prendre au sens apparent. Ce hadith-là, c'est un hadith qu'on appelle hadith Qudsi. C'est-à-dire, prophète dit, Allah Ta'ala dit. Donc vous avez avec l'audio l'explication, le hadith en arabe, qui l'a rapporté, le hadith au complet, etc. Qui montre quel sens figuré. Il y a des choses qu'on peut pas prendre au sens apparent. En français, je te donne un coup de main, si tu traduis en arabe mot à mot, il va comprendre que tu veux le frapper. Tu peux pas, il faut traduire le sens. Donc voilà, et puis ce que j'ai dit tout à l'heure, les preuves vraiment très importantes sur. Le maoulé de la bonne innovation. D'ailleurs, il y a le verset du Coran ici sur la bonne innovation qui signifie nous avons créé dans les cœurs de ceux qui l'ont suivi une bienveillance, une miséricorde et un monachisme qu'ils ont innové. Nous leur a, nous leur, nous le leur, a, nous le leur avons pas ordonné. Ils ne l'ont fait que par recherche de l'agrément de Allah. Donc Allah fait l'éloge des musulmans qui suivaient la loi de Jésus, Issa, alayhi salam, parce qu'ils étaient des gens miséricordieux, qu'ils avaient de la compassion, et parce qu'ils ont innové ce monachisme, al-rahbaniyya, qui consiste à couper court aux désirs pourtant permis, sans les rendre interdits, sans les considérer interdits. Au-delà de l'abandon des péchés, ils en arrivèrent au point de ne plus se marier, de délaisser des jouissances permises, tels que le plaisir de la table et les habits luxueux, ils se sont consacrés totalement à l'au-delà. Ils ont innové quelque chose que Isa alayhi salam ne leur a jamais prescrit. Allah a fait leur éloge pour ce monachisme. Mais il dit, ibtada'uha, c'est-à-dire il emploie le terme bid'a, c'est-à-dire ils ont innové. Donc il y a des bonnes innovations, des mauvaises innovations. Donc il y a le détail, bien sûr, qu'il y a des gens, Dieu fait. Après le blâme de ceux qui ont juste ont suivi ces gens-là en délaissant des plaisirs, mais en adorant Jésus. Ça veut dire, Dieu nous dit dans la suite du verset que ceux qui auront la récompense, c'est ceux qui sont restés sur la foi, que Dieu, qu'il faut adorer Dieu, Jésus, le messager de Dieu, pas ceux qui ont délaissé le mariage, les plaisirs permis, mais ils ont attribué à Dieu des associés. Donc dans la suite du verset, il blâme ces gens-là. Mais ceux qui sont restés sur la croyance et qui ont augmenté en adoration au point de délaisser des plaisirs permis, Dieu fait leur éloge pour ce qu'ils ont innové. Et il y a le hadith qui a celui qui instaure dans l'islam une bonne innovation, il aura une récompense. Et celui qui instaure une mauvaise innovation, une mauvaise sunna, c'est ici dans mauvaise innovation, il aura donc il sera chargé de son péché et des péchés des gens qui la pratiquent après lui. Tout comme celui qui fait une bonne tradition, sunna, donc bonne donc sunna hasana, et il aura la récompense et aura il aura une récompense donc une récompense à chaque fois que les gens la pratiquent après lui. Donc il y a beaucoup de détails là-dedans, donc on y reviendra. Omar dans Sahih al-Bukhari, il dit ni'ma al-bid'atu hadhihi, quelle bonne innovation que celle-ci. Quelle bonne innovation, il utilise le terme bid'a, bonne bid'a, et ça c'est dans Sahih al-Bukhari, parce que eux, ils font peur aux gens, parce que les gens ils maîtrisent pas la langue. Donc la langue arabe bid'a ne veut pas dire mauvais en soi, ça veut dire innovation. L'innovation ça peut être bien ou au mauvais. Donc maintenant ils ont innové des choses. Tu peux partir à la Mecque en avion, tu peux parler au micro, etc. Dans toutes les mosquées il y a des micros et des minarets, ça n'existait pas à l'époque du prophète, alayhi salatu wa salam. Donc, selon les spécialistes de la langue, innovation, bid'a, c'est une chose, donc une nouvelle. Et dans la religion, c'est ce qui était fait, qui n'a pas été cité explicitement dans le Coran et dans le Hadith, mais si c'est conforme aux règles de base, c'est une bonne. Si c'est contraire, c'est mauvais. Et là, il y a, voilà, comme l'imam Shafi'i ici, il explique ce qu'on vient de dire. Les nouveautés parmi les choses sont de deux sortes. L'une, c'est ce qui est innové et qui contredit le livre, la sunna, les textes des prédécesseurs parmi les compagnons ou l'unanimité. Celle-là est l'innovation d'égarement. La deuxième, c'est ce qui est innové et qui fait partie des bonnes choses et qui ne comporte pas de contradiction avec aucun de ceux-là. Et cette nouveauté n'est pas blâmable. Voilà. Ça, c'est qui? Shafi. C'est qui Shafi? Prophète, il dit, Alim Quraysh. Viendra le savant de Quraysh qui remplira les contrées de la terre de science. Rapporté par Tirmidhi. Et c'est qui, des quatre écoles, le seul qui est de Quraysh? Parce qu'il est de la tribu du prophète, alayhi, c'est Muhammad ibn Idris. C'est l'école la plus suivie dans le monde. Bien que, on a dit, les quatre écoles, c'est des sunnites. Mais l'école Indonésie, Malaisie, Moyen-Orient, Égypte, Comores, Afrique de l'Ouest, c'est, rien que l'Indonésie, c'est 200 millions. Donc c'est l'école Shafi'i. Donc c'est qui dit ça? C'est pas un simple youtubeur sur Internet ou une simple quelqu'un qui passe sur Al Jazeera ou non. C'est un grand savant qui était l'élève de l'imam Malik, mais il avait plein de chouyours, plein d'enseignants. Et qui a dit juste avant, bonne innovation, deuxième meilleur calife. Il a garanti du. C'est qui son enseignant à Omar? Ben c'est le meilleur, la meilleure créature, son enseignant. C'est le prophète, alayhi salatu wa salam. Donc, qui on va suivre? C'est qui les pieux prédécesseurs? Eux, souvent, ils utilisent ce terme-là, ces gens égarés, mais ils n'ont rien à voir avec les pieux prédécesseurs. Ce qu'on a cité, tout, c'est des gens du vrai salaf, les 3 premiers siècles de l'Hégire. Donc, il y a de nombreuses preuves, vraiment. Donc, on en a vu quelques-uns, c'est tout. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de preuves. Donc, vous pouvez revenir à cet article. Donc c'est très intéressant. Donc on a dit le wahhabisme, donc c'est une des sectes dangereuses, et on a dit comme pourquoi utiliser à double jeu par les ennemis de l'islam. Donc c'est né il y a 250 ans, 250 ans à la Mecque, avec l'aide des ennemis de l'islam qui leur ont donné les armes, etc. Et donc, ils ont pris la Mecque et Médine de force. Ils égorgeaient les gens dans la prière. Hein. Ils s'étaient cités par des grands, grands savants des quatre écoles. Donc, ils ont répliqué. Et le frère même du fondateur de la secte. Donc, voilà, savants sunnites ayant répliqué à Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc, vous avez des articles. Là, vous pouvez voir. Massacre des musulmans de Hatay et en Arabie par la secte wahhabite. Donc ils ont massacré, c'est relaté même par sur la même chaîne. Donc il y aura, mais c'est en arabe. Il y a des manuscrits anciens avec des tampons des grands savants de la Mecque et Médine qui remercient l'armée L'armée égyptienne à l'époque, c'était sous l'Empire ottoman, parce qu'il y a deux phases du wahhabisme. La première phase, c'est l'Empire a réussi en ottoman, il les a fait écarter. Avec, c'était la grande armée, c'était majoritairement d'Égypte, dirigée par Ali Bacha. Et donc il y a dans une vidéo, mais en arabe, donc c'est un plateau en Égypte, il parle du manuscrit, comment il témoigne que c'est des gens et religieux, égarés, vous nous avez soulagés de ces gens-là parce que là, l'armée ottomane a réussi à les enlever au début. Ils ont fait beaucoup beaucoup de mal. Des grands savants, ils ont répliqué le frère même du fondateur de la secte, il a écrit deux livres contre lui. Un savant hanbalite, parce qu'ils se disent à tort hanbalite et l'école hanbalite ne sont deux. Le savant hanbalite Ibn Humayd, il cite le père de Muhammad ibn Abdul Wahhab, son père c'était un sunnite, son frère c'était des savants. Il cite, en tant que savant, il cite 800 savants et savantes hanbalites de l'époque de l'imam Ahmed jusqu'à cette époque-là. Mais il cite pas le fondateur de la secte wahhabite hanbalite, mais il cite son père. Mais il dit quoi? C'est le père de Muhammad qui a fait beaucoup de mal dans les contrées, qui voulait tuer son frère, etc. Il a fait beaucoup de mal, il tuait celui qui le contredisait, etc. Voilà, ben c'est celui-là, c'est le premier. Les nuages porteurs de pluie sur les tombes des Hanbalites. Du mufti Hanbali de son époque à la Mecque honorée. Il était mufti après la première phase des Wahhabites qui sont fait sortir par l'Empire ottoman. Alors, il y en a beaucoup, beaucoup, hein. Celui-là, il est très connu aussi. Dawla al-Othmaniya. Mais Kitab al-Futuhat al-Islamiyya, du mufti des Shafi'i à la Mecque honoré, Cheikh Sayyid Ahmed Zayni ibn Zayni Dahlan. Il cite comment ils sont arrivés, à un moment il cite un passage, des gens ils récitaient le Coran dans une maison, ils les ont tués du premier au dernier, il dit. Il cite un autre passage, quelqu'un qui avait une belle voix, il était aveugle, il faisait l'adhan, il faisait salat ala nabi. Après l'adhan, donc vous avez quelques vidéos, notamment à Jérusalem, Al-Quds, les musulmans ils font salat al-Nabi après l'adhan. Il y a la voix de Abd al-Basit, très connu, le récitateur égyptien, qui fait la salat al-Nabi après l'adhan. Les Wahhabites, ils sont contre le prophète. Donc le leader, Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a ordonné qu'il soit tué. Il a été tué, cet homme-là qui faisait l'adhan. Et il faisait salat al-Nabi après l'adhan. C'est un des passages cités dans ce livre-là. Donc vous avez beaucoup, parmi eux, il y a le grand savant de la Tunisie, Omar al-Mahjoub al-Maliki, Risalat ulama Tunis, il Al-Dhal al-Wahhabi. L'épître des savants de la Tunisie contre l'égaré wahhabite, des cheikhs de la Zaytouna. Ils l'ont répliqué, Zahd al-Kawthari, le grand savant aussi, Hanafi. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup, vous pouvez lire, voilà. Pas beaucoup, beaucoup. Donc, ils lui ont répliqué. Donc, c'est pour ça, c'est important de connaître l'histoire pour comprendre, connaître le passé pour comprendre le présent, comme on dit. Parce que beaucoup, ils n'ont pas de culture musulmane, hein. Beaucoup, malheureusement, avec les gens maintenant, comme il a dit le prophète, ils connaissent les sujets. Il a dit, parmi les gens que Dieu n'agrée pas, le prophète, arifin bi amri dunya jahin bi amri al-akhirah. Une personne qui connaît les sujets du bas-monde, il connaît pas les sujets de l'au-delà. De nos jours, les gens, ils connaissent la politique, le foot, les équipes de foot, les chanteurs, pour détourner les gens, pour qu'ils connaissent pas leur religion comme il faut, bien sûr. Et les gens, malheureusement, c'est un fait, c'est pour cela que le prophète, il a dit, la religion, elle a commencé étrange, elle va redevenir étrange. Bada ad-dinu ghariban wa sayaoudu ghariban kama bada. Donc, c'est important de connaître ces règles-là pour ne pas tomber dans le piège. Donc, vous voyez, il y en a beaucoup. Il suffit de regarder l'article. Voir les répliques sur ces gens-là. Donc, mise en garde contre la secte wahhabite. Donc, avant tout, il faut se concentrer. Comme les autres religions, ils attribuent à Dieu la forme, la quantité. Et on a dit au début, l'islam est la seule vraie religion parce que c'est la seule religion conforme à la raison. C'est la seule religion conforme à la raison. Parce que tout ce qui est une forme, une quantité, une localisation a besoin de qui lui a donné cette forme, cette quantité. Et celui qui a besoin, il peut pas être Dieu. Le besoin, contredit la divinité. Donc vous avez les détails ici. Voilà, le fait, il y a le verset sur le fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal. La mise en garde, elle est importante. Donc déjà, mettre en garde quelqu'un qui vend des marchandises périmées, c'est un devoir. Que dire celui qui falsifie la religion? Et il y a le hadith. Certes, cette communauté se séparera en 73 groupes, 72 sont en enfer et un seul au paradis, c'est la majorité. Donc il y a donc le début, ça commence. On a vu qu'il parle de la communauté de Moïse qui va se diviser en 71 groupes, communauté de Jésus en 72 et sa communauté en 73, tous en enfer. Il dit pas le prophète, c'est précis, hein. Il dit pas en 73 sectes. Parce que dans les 73, il y a un bon. Il dit bien un groupe, parce que groupe, ça admet bon ou mauvais. 73 groupes, dans ces groupes-là, il y en a 72 mauvais et un qui est bon. Donc les 72 groupes mauvais, c'est les sectes. Donc d'abord, il utilise un terme général, 72 groupes, 73 groupes. Et il y a 72 qui sont mauvais, c'est là qu'on dit secte. Donc on ne dit pas 73 sectes, il y en a, ils abrègent les choses. La religion, c'est important, c'est la précision. Il faut pas dans l'à peu près. Donc tous les liens ils sont sur islam.ms. Et on a dit sur islam sunnite.net, il y a beaucoup beaucoup aussi de sujets avec des scans, etc. Il parle aussi, le terme salaf désigne en réalité les musulmans des 3 premiers siècles, c'est pas des gens égarés de maintenant. Il y a le hadith. Voilà. Et il y a le hadith très très important aussi, le fameux hadith où le prophète il dit Minha yatla'u qarnu shaytan. De là viendront. Littéralement, c'est les cornes du diable, ou la fitna, en fait, c'est le fer de lance du diable, viendra de l'Est. En fait, le prophète lui-même, il disait, Allahumma barik fi shamina wa yamanina. C'est-à-dire, oh Allah, accorde des bénédictions dans notre Sham, dans notre Yaman. Il y a des gens qui venaient du l'Est. L'Est où il y a Riyad. C'est pour ça, ils ont mis les, parce que les Wahhabites, ils viennent de là-bas. Et leur capitale, c'est là-bas, d'ailleurs. Le prophète n'a pas répondu. Il a répété le même dua. Oh Allah, accorde des bénédictions pour notre Chèvre et notre Yaman. Deuxième fois, il demande. Troisième fois, le prophète, après la troisième fois, c'est là, il répond pas à ce qu'il demande, mais il dit, Minha yatla qarnu shaytan. Rapporté par qui? Par Al-Bukhari. Rapporté par Al-Bukhari. Donc, dans une autre version, il dit, la fitna discorde viendra de l'Est. Or, à l'Est de Médine, il n'y a que Riyad et Qatar, les deux fiefs des Wahhabites. Et d'ailleurs, dans un journal anglais, il dit clairement, I am Wahhabi, à la journaliste, il dit le chef du Qatar, le dirigeant, entre guillemets, du Qatar. Il y a une vidéo très connue, on le voit, et puis avec une journaliste qui parle anglais, en tout cas, il dit, I am Wahhabi. Je suis, dans la, c'est-à-dire dans l'entretien, parmi ce qu'il dit, il dit clairement, je suis Wahhabi. D'ailleurs, eux, il y a ce que vous savez, donc ceux qui leur donnent des armes, hein, parce que ces gens-là, ils fabriquent pas des armes. C'est qui leur donne des armes? Ils leur vendent. L'autre fois, il y avait manifestation, c'est passé sur le journal, au Havre, parce qu'ils venaient se faire livrer des armes. Où ça? Au Havre. Et après, on dit, on est contre les et ces mêmes gens, ils disent qu'on est contre les wahhabites, etc. Donc, faire attention, c'est un piège. D'une, pour égarer les musulmans, et de deux, pour montrer ces gens-là en tant que représentants des musulmans pour pouvoir critiquer les musulmans. Donc, la connaissance, elle est importante. Allah dit dans le Coran, wa qur rabbi zidni ilma, ce qui signifie, dis, oh Allah, augmente ma connaissance. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, walladhina utul ilma darajat. Allah élève en degré ceux d'entre vous qui ont cru et qui ont acquis la connaissance par étapes. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, la faqihun wahidun ashaddu ala shaitan min alfi abd. Un seul qui maîtrise la religion en faqih, plus fort contre le shaitan que 1000 qui font les adorations. Il y a des gens, ils se sont fait piéger, il y a des gens, ils sont partis victimes, des gens, ils nous ont raconté. Moi, personnellement, devant moi, il pleurait, il m'a dit, mon fils, architecte, c'est-à-dire salarié, il a l'aisance, bac plus 5 minimum. Son père, il pleurait devant moi. Il me dit, ah, mon fils architecte s'est fait endoctriner, il est parti en Syrie, j'ai essayé de le rattraper jusqu'en Turquie. Et il a vu que c'est des gouvernements qui l'aident, etc. Il a fait son enquête, c'était son fils unique. Et ben, pourtant, il était architecte, mais ils l'ont égaré avec ces sujets-là, comme on va voir, qui sont cités ici. Comme le Maoulid, comme le fait que ce sujet-là, et qui va venir aussi, Le musulman utilise les causes. Eux, ils disent, tu utilises la cause, t'es mécréant. Devant moi, j'étais au pèlerinage, 2001. Devant moi, un musulman, il touche la Kaaba avec ses vêtements, et le policier, donc officiel, c'est le wahhabite officiel d'État avec son uniforme, il dit, toi, il dit quoi? Il dit, toi, t'es pas musulman. Ça veut dire, toi, tu es mécréant. Il dit ça aux musulmans. Juste parce que le musulman, il a touché la Kaaba. Et le prophète nous dit quoi? مَرَّمَ مُسْلِمًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَ اللَّهِ إِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَمَا قَالَ. C'est un hadith sahih al-Bukhari. Celui qui dit à un musulman mécréant sans rien, il a dit, ça retombe sur lui si ce n'était pas comme il l'a dit. Et ce hadith, il est important. Il nous montre qu'il y a deux cas. Ou quelqu'un, il a dit la mécréance, il lui dit, t'es mécréant. Ça montre qu'on peut déclarer mécréant quelqu'un qui a fait la mécréance. Et ça réplique à certains extrémistes aussi. Que tu dis non, tu dis à personne mécréant, ça existe. Le prophète, il dit, ça retombe sur lui si ce n'était pas comme il l'a dit. Dans une autre version, faqad ba'a biha ahaduhuma, in kana kama qal, wa illa raja'at alayhi. Il dit, c'est l'un des deux qui sera chargé. Si c'était comme il l'a dit, sinon ça revient sur lui. Ça montre deux choses importantes dans ce hadith, dans le Bukhari. Qui sait, quelqu'un, il a insulté Dieu, ou il s'est moqué de l'islam, ou celui qui l'autorise qu'on se moque du prophète, celui-là, tu lui dis t'es mécréant, même s'il est arabe, c'est normal. C'est vrai ce que t'as dit. Et si quelqu'un, il a rien fait, juste pour faire rire les gens, comme certains ou plaît, disent, toi t'es mécréant, ou t'es athée, ou ils disent, t'es d'une autre religion. Donc, ça retombe sur toi. Et comme il a fait ce wahhabite, un musulman qui touche la Kaaba avec ses vêtements, il est où la mécréance là-dedans? Alors, le prophète, il a embrassé la pierre noire. Les musulmans, ils utilisent l'eau de Zamzam. Le Coran, il dit, Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. La première construction sur terre, c'est la Kaaba. Elle est mubarak, il y a de la baraka. C'est qui crée toute chose, on a dit, c'est pour ça, on a commencé par le sujet. Le créateur de la baraka, de nos pensées, de nos actes, du prophète, de ses actes. Tout est créé par Dieu. Le prophète ne crée rien, la Kaaba ne crée rien, le médicament ne crée rien, la nourriture ne crée rien. Utilisez les causes dans Sourate Yusuf. Donc, ça on verra comme preuve nombreuse où le prophète Yusuf, il dit, prenez mon habit et mettez sur les yeux de mon père. Ça, c'est dans le Coran. Les deux, c'est des prophètes. Dieu n'a pas besoin de l'habit pour donner à Jacob l'a vu. C'est une cause, c'est tout. Il a retrouvé la vue. Et ça, c'est dans le Coran. Est-ce qu'ils vont dire c'est des mécréants associateurs? Ils vont dire shirk, shirk, ils donnent, on dirait, pour eux, shirk, c'est comme bonjour. Il y a des gens aussi, ils ont pris cette habitude. Shirk, shirk, non. Il y a des règles. Ça, c'est du shirk. Quand tu crois que quelque chose arrive malgré Dieu, ou t'attribues aux créatures ce qui est spécifique à Dieu, ou t'attribues à Dieu les attributs des créatures, c'est du shirk. Mais quelqu'un qui utilise une cause de baraka comme le prophète, il a partagé ses cheveux. Vous allez voir, beaucoup de preuves aussi. Non, Sahih al-Bukhari, est devant des milliers de gens. On ne peut pas renier. Khalid ibn al-Walid, il a pris, il a mis dans sa qalam, soit le shashiya, on dit, qu'on met sur la tête. Il a dit par sa baraka, Dieu m'a accordé la victoire. On va pas dire le chef des musulmans, le grand conquérant très connu, Khalid ibn al-Walid, on va pas dire c'est des mouchriks. Ou le prophète, il a partagé ses cheveux devant des milliers de compagnons. Pourquoi il leur partage les cheveux? Est-ce que ça se mange les cheveux? Est-ce qu'ils vont, il dit aux gens, adorez mes cheveux? Non, le prophète n'enseigne pas la mécréance pour la baraka, comme le prophète Youssef dans le Coran. Et ça, c'est un deuxième point sur lesquels, avec lesquels ils attirent les gens, comme des gens qui sont partis, des jeunes filles de fac, des jeunes filles donc du Maghreb, notamment beaucoup en Tunisie, ils sont partis faire donc ils travaillent pour ces gens-là et au final, c'est vous savez qui profitent après derrière eux, ils prennent le pétrole, l'uranium sans les citer, c'est les mêmes gens qui leur donnent des armes. Donc des gens ils se sont fait attraper au Mali, au Nigeria, ils livrent des armes. Et il faut pas chercher loin pour savoir comprendre c'est qui. C'est pas des simples terroristes en claquettes qui fabriquent des armes, c'est de la haute ingénierie des armes. Qui leur donne des armes, qui leur livre des voitures toutes neuves, des chars d'assaut, etc. Donc c'est les ennemis de l'islam derrière qui les utilisent, comme à l'époque du prophète, ces gens-là, ils manigançaient avec les Arabes mécréants contre le prophète. Donc c'est pour ça, connaître, ça permet, c'est pas tu vas t'opposer à ces gens-là, parce qu'Allah dit dans le Coran, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dieu ne charge la personne que ce qui est dans sa capacité. Dieu n'a pas, ne t'a pas chargé, donc en simple mesure, de défier ces gens-là. Prophète, le Coran déjà, il dit, Qu'ou anfusakum ou ahlikum nara wa qudouha an-nas wal hijara. Préservez-vous, ainsi que vos familles, d'un feu dont le combustible sera d'homme et de pierre. Il faut commencer par toi, te préserver. Et le prophète, il dit, parmi les signes de la fin du monde, il dit, da'anka amra al-'amma, 'alayka bi khassati nafsika. C'est, délaisse les sujets du généraux et coupe-toi de toi. Comprendre ta religion, c'est pas passe ton temps à regarder ce qui se passe dans l'actualité, à commenter, tu perds ton temps et tu tombes dans des pièges. Non. Le prophète, il l'a dit. Comment se comporter face aux dissensions? Beaucoup y posent cette question, il l'a dit. Délaisse les sujets généraux, occupe-toi de toi-même. Comprends bien ta religion, maîtrise. Il y a des gens qui ne savent pas réciter la Fatiha, ils passent son temps à parler et à commenter la politique, l'actualité, et transférer des vidéos. Un tel, il s'est fait agresser, un tel, il lui est arrivé ceci, il s'est passé ça, le président va dire ça, ou un tel, il va dire ça, ou... Non. Apprends bien ta religion. Dans la tombe, tu vas te interroger sur ça. On avait l'histoire qu'on répète, magicien, que Pharaon, il a ramené, ils ont vu que Moussa, il est véridique, il a un miracle, que ce n'est pas de la magie, ils ont compris qu'il est appuyé de Dieu, qu'il est véridique, ils sont convertis à l'islam, et quand Pharaon les a menacés d'exécution, ils lui ont fait comprendre ce que tu fais, c'est passager. Ton exécution, des douleurs que tu vas infliger, ça reste passager. On reste musulmans, ils sont morts musulmans, ils l'ont fait comprendre, ils l'ont expliqué. Celui qui meurt mécréant, la douleur, elle est sans fin. Donc, ils ont persévéré, ils sont morts martyrs. Il n'a pas pu, donc, leur enlever l'islam de leur cœur. En finale, ils étaient plus forts que lui. Et c'est la vérité. C'est eux qui ont gagné. C'est eux les victorieux. Allah dit dans le Coran, ceux qui te suivent sont au-dessus des mécréants jusqu'au jour dernier. Qui a la vérité, c'est les au-dessus. Parce qu'avec la vérité, il a la victoire sans fin. Il a la félicité sans qui ne s'arrête jamais. Parce que celui qui fait essuie la mécréance, il profite dans cette vie quelques temps comptés, quelques respirations comptées. Pharaon, il a vécu 500 ans, il est passé. Les gens qui ont fait du mal, ils sont restés beaucoup moins que lui, ils sont passés. Un tel est mort, tel président est mort, etc. Dans la tombe, ça marche pas, président. C'est dit clairement dans le Coran. Le mécréant, il dira, mon argent ne va pas être utile pour moi, ni mon pouvoir. Mon pouvoir est dissipé, n'est pas utile. Donc, comprendre ces règles-là pour bien suivre la religion, c'est ça qui est requis. Comme il a dit le prophète, comprendre la religion comme tu dois, pratiquer comme tu dois. Donc, il y a, on aura l'occasion de parler de la prière, qui est le deuxième meilleur devoir après la foi. Il est important, réciter la Fatiha correctement, bien prononcer. Voilà des sujets, pas perdre son temps dans des choses. Donc Dieu ne t'a pas chargé de ces choses-là, Dieu t'a chargé de comprendre la religion et à pratiquer. Et si tu veux pas arrêter le mal, il faut le détester. Voilà comment il faut agir. Donc voilà donc que dit la religion. Voilà donc quelques points sur le wahhabisme. Donc on est vers la fin là. Donc on a montré deux points importants. Donc le fait qu'ils assimilent Dieu à ses créatures, le wahhabisme, et déclarent mécréants les musulmans juste parce qu'ils utilisent des causes comme chercher la baraka par le prophète. Ou les traces du prophète, ou les traces des compagnons du prophète aussi. Comme les musulmans, ils visitent à Médine, il y a le prophète, juste à côté de lui, c'est pas des prophètes, c'est Abou Bakr et Omar. Ils cherchent la baraka. Comme l'imam Shafi'i dont on vient de parler, ils visitaient la tombe de Abou Hanifa. Comme au Maghreb, comme en Tunisie par exemple, il y a deux compagnons du prophète que les gens ils visitent depuis plus de 1000 ans. Abu Lubab al-Ansari à Gabès et Abu Zam'a al-Balawi à Qayrawad. Il y a Biskra aussi en Algérie. Uqba ibn Nafa, celui qui arrivé à Qayrawad d'abord. Donc, c'est pas le visiter ses ancêtres, réciter le Coran ou des ancêtres et des gens dans des musulmans, ils ont des ancêtres vertueux. Pour la baraka, c'est pas du shirk. C'est là le wahhabisme, il joue sur l'ignorance des gens sur ces fondements-là. Voilà ces points très importants avant de voir d'autres points. Et donc, on a vu aussi qu'il renie les bonnes innovations. On a vu pas mal de preuves. Comme on l'a dit, c'est clair ces sujets-là, mais on a besoin de revoir Ils ont dit, les savants, même si tu es très intelligent, tu as besoin de revoir entre 5 et 10 fois. Donc, il y a le premier cours à réécouter. Donc, et ce cours-là, Inch'Allah, avec les preuves sur islam.ms. Donc, la plupart des preuves qu'on a citées, les versets, sont sur islam.ms. Des preuves poussées aussi avec des centaines, presque plus de 100 en tout cas, des scans de savants sur islam-sunnite.net. Donc, il y a des preuves avec beaucoup de donc de scans de savants. Donc, vous pouvez regarder aussi au besoin pour avoir des preuves détaillées, etc. Sur le Maoulid, sur Dieu ne ressent pas ses créatures, sur Tabarok, etc. Avec les scans des livres des savants. Et bien sûr, la religion, c'est par transmission. Ça s'apprend par chaîne de transmission. Et on rappelle, ici, comme il a dit le prophète, chacun en prend sa parole, on délaisse sauf le prophète. Et Omar, quand il s'est trompé, il a dit, Omar s'est trompé, une femme a dit vrai. Il faut pas suivre aveuglément des gens comme ça. Quelqu'un, il peut se tromper sur un sujet. Chef, il a dit, si ma parole contredit le hadith, alors rejette ma parole. Donc, il a dit, rejette ma parole. Donc, voilà la voie des grands, comme on a dit, dans la pratique. C'est pas suivre aveuglément des gourous ou un youtubeur sur internet aveuglément qui veut juste avoir le buzz et avoir plein de vues et qui souvent ces gens-là ils utilisent pour gagner de l'argent. Mais malheureusement ils disent pas mal de choses fausses. Voilà comme là sur Islam Sunnite Azhar, la célébration du Maoulid est recommandée. Il y a un article sûrement sur Zaytouna aussi comment il fêtait le Maoulid. Etc., etc. Pas mal de sujets aussi pour celui qui veut approfondir. Donc, vous voyez plein, plein, plein de sujets avec scan des livres, des savants, des quatre écoles vraiment. Il y en a plus de 100. Puis mise en garde contre les leaders des wahhabites. On en aura l'occasion d'en parler. Il y a les leaders des sectes wahhabites, c'est important de les connaître pour les éviter. Comme on a dit maintenant, ils sont médiatisés à travers, avec l'argent qu'ils ont, malheureusement. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, on a vu pas mal de sujets. Toujours, donc, un rappel, on l'a fait au début sur la croyance, l'unicité de Dieu. Donc, celui qui attribue à Dieu la forme, la quantité, il est mécréant, comme il dit. Donc, il y a la parole de grands savants, donc Zaini Dahlan, Mayara, je voulais dire, Mayara plutôt, du Maghreb, enfin de Fès d'ailleurs, précisément, qui fait le commentaire de Ibn Hajar. Il dit que celui qui attribue à Dieu le corps, il est mécréant, même s'il a fait un effort, qui est tombé dans, ijtahada, il dit en arabe, c'est-à-dire, ou il a suivi quelqu'un, ou c'est lui qui a fait une recherche, il a trouvé cette voie-là, adorer un corps. Que ce soit une vache, une statue, un vieillard qui habiterait le ciel, ou le soleil, la lune, c'est ça. Ce n'est pas, c'est un mécréant, selon l'unanimité. Il dit, il y a cette parole, donc elle y est sûrement ici, sur, la croyance, donc au début. Donc au début, il y a sur la croyance en Dieu. Donc un des articles au début du site, elle y est, cette parole en arabe avec son explication. Donc attribuer à Dieu le corps, celui qui a une mauvaise croyance, ses actes, sa prière. Donc quelqu'un, on sait que il a une mauvaise croyance, on dit pas viens prier ou sa prière n'est pas valable en islam. Bon, c'est pas valable la pratique de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu selon ce qu'il dit de lui. Ou quelqu'un qui a une mauvaise croyance. Donc, comme c'est dit dans le Coran, مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ. Les œuvres de ceux qui ont mécru sont-elles de la cendre emportées par le vent un jour de tempête? Il n'y a pas de récompense. Donc, faire attention parce qu'il y a des gens, ils se disent sunnites, ils jouent sur les gens, ils disent des choses vraies, mais après, ils vont dire, celui qui attribue à Dieu le corps ou qu'il est wahhabite, il est musulman, croyant, parce qu'il touche de l'argent. Il y a des gens, malheureusement, ils se font acheter par l'argent. Donc il y a des règles. Comme il a dit un grand savant, si l'élève, il voit que son cheikh se trompe, il le corrige. S'il accepte, c'est bien. Sinon, il délaisse son cheikh, il suit la religion. Parce que le cheikh, même s'il est fort, il n'est pas un prophète. Donc, on suit les règles de la religion. On suit pas des gens aveuglément. Il y a des gens, malheureusement, ils se disent sunnites et ils attribuent, donc ils disent aux gens, Ok, tu peux celui qui il dit Dieu ne ressemble pas à ses créatures, mais celui qui assimile Dieu à ses créatures, ok, il y a pas de problème. Comme si quelqu'un il dit 1 plus 1 est égal à 2, mais si quelqu'un il dit égal à 3, ok, je le mets la bonne note. C'est pas acceptable. Tu peux pas être en accord avec la vérité et accepter le contraire de la vérité. C'est vraiment un jeu. Ça veut dire de l'hypocrisie. Et dans la croyance ici, c'est de l'égarement. Donc, faites attention à ce genre de gens. Ils peuvent donc vous tromper sur Facebook, sur Internet, et avec des appellations sunnites ou autres, acharites, etc. Donc, on reviendra sur le terme acharite, que ça, le vrai sens, ça désigne les sunnites, les vrais sunnites. Donc, ça, on y reviendra en détail. Prochaine fois, inchallah, mais faire attention parce que les gens égarés, ils veulent égarer les gens, donc ils vont vous dire des phrases comme ça, douteuses, en disant, ok, Dieu ne ressemble pas à ses créatures, mais les gens qui attribuent à Dieu, ok, c'est des musulmans, c'est une contradiction. C'est quelqu'un qui n'a pas la raison, il n'utilise pas sa raison. Quelqu'un qui attribue à Dieu le corps, ben il n'est pas musulman. Voilà d'ailleurs au début de l'article. Mayara, dont on parlait, mort en 1072 de l'Hégire, il dit, les gens de la vérité ont été unanimes sur le fait qu'Allah Ta'ala n'a pas de direction, qu'il n'a pas de dessus, ni de dessous, ni de droite, ni de gauche, ni de devant, ni de derrière. Et donc, il y a la parole ici, normalement, que j'ai dit tout à l'heure, que il est mécréant, celui, donc bien sûr, on a vu, celui qui attribue à Dieu le corps. Ça, c'est important. Relisez cet article, la parole d'Abou Bakr, que on ne peut pas atteindre la réalité de Dieu. Seul Dieu sait sa réalité. Nous, on connaît Dieu selon ce qui est digne de lui, par ses attributs. Les créatures ne connaissent pas la réalité de Dieu. Seul Dieu sait sa réalité. Donc, apprenez. Essayez d'apprendre par cœur ces choses-là. Donc, on est arrivé vers la fin. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, de toute façon, vous pouvez contacter sur WhatsApp pour les questions. Ou sur le site, donc il y a le mail en fait. Il y a ce mail ou info@islam.ms ou ceux qui ont le WhatsApp. De toute façon, vous envoyez un mail là, vous aurez le WhatsApp. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ashraf al-mursalin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa shifa'an kulli da'. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc téléchargez l'application pour ceux qui ne l'ont pas aussi. Vous aurez les cours, il y a les horaires donc de prière avec l'incitation à observer la Qibla, etc. Des choses fiables. Barakallahu fikum.